Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 22, joli chiffre, avec aujourd'hui Christelle Stel de Relax et Magali Delzang de Aspire Work. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être revenu. Alors RLP Business, hein, rappelez-vous votre émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs, avec bien sûr Patrice, Patrice Soilet. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour à vous tous, très très bien, j'espère que vous allez tous bien. En plus il fait un temps magnifique, on a une arrière-saison fantastique.
Ah, c'est l'été indien.
De quoi on parle aujourd'hui, Stéphane ?
Ah, nous allons avoir une petite chronique sur les taxes, les impôts, la classe moyenne.
Ça fait pas rire ça.
Non, oh, ne bougez pas. C'est juste après ça.
Les actualités.
Alors, il se trouve que le Congrès argentin a approuvé un projet de loi qui supprimera l'impôt sur le revenu pour presque tous les travailleurs jusqu'à 15 fois le salaire minimum. On va juste parler de salaire minimum parce qu'autrement, ça n'aura aucune incidence. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Hein, les rentrées fiscales pour France 2022 sont de 450 milliards, dont 23,8% d'impôt sur le revenu, 38% de TVA, 19% d'impôt sur les sociétés et 19,5% d'autres recettes. Alors, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que dans l'International Tax Competitiveness Index, nous avons, dans les pays développés, nous sommes à la 38e place des pays les plus imposés devant le Danemark. On a même sur les travailleurs un labor, c'est-à-dire un burden, un poids de 47% qui est le plus grand des pays de l'OCDE. Alors, hôpitaux surchargés, écoles catastrophiques, soins non remboursés, mais où va l'argent ? Une remarque, quelqu'un peut-être, non, les expressions du visage suffisent à mon bonheur. Alors, à l'heure où tout le monde s'oriente vers un Élyséeum et quelques privilégiés, 0,1% ayant accès à tout, et les autres devenant peu à peu leurs esclaves, comment se libérer de ce schéma ? Alors, sans faire du Tugendbara, pour ceux qui connaissent, affinons un peu sociologiquement cette analyse. Le racket s'effectue sur la classe moyenne, les très riches ne payent pas, les très pauvres ne payent pas. Donc restent seulement les cadres, les ingénieurs, les indépendants, les petits patrons de PME qui se font en permanence allumer, qui s'appauvrissent et qui voient se profiler le piège pour eux et surtout pour leurs descendants. Pourtant, il aurait été simple de changer cela. Il suffisait de rejoindre les manifestants d'un petit mouvement populaire coloré ayant eu lieu en France il y a quelques années et de faire quelques grands changements, voire une révolution. Eh ben non, ils n'ont pas voulu. C'était pas bien, c'était pas propre, mauvaise image, pas d'entreprise pour des pauvres, etc. Mais maintenant c'est trop tard. Le moment est passé, tant pis, vous avez choisi votre petit confort quand les autres tentaient de se battre pour vous. Eh bien, payez maintenant.
L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine, c'est enfin, on a de la chance aujourd'hui, on a deux invités, deux dames, Christelle, Magali, Christelle Stel de la société Relax et Magali Delzang de la société Aspire Work. Alors mesdames, vous êtes sur ce plateau radio, merci à vous d'être là. On va faire un petit peu connaissance, vos activités, vos métiers, puis aussi on va découvrir pourquoi vous êtes là toutes les deux. Il y a certainement un lien, il y a certainement un fil. Alors je commence par laquelle de vous ? Christelle ? Alors Christelle Stel, vous êtes co-gérante de la société Relax. C'est sympa comme nom Relax, enfin en tout cas ça déstresse. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors c'est l'idée effectivement de déstresser. On est diffuseur de bonne humeur. À chaque fois que le nom est lancé, effectivement, on a cette petite lueur d'humeur en fait positive. Nous, on a élaboré une solution de thérapie audiovisuelle pour venir en aide aux patients, mais également aux soignants lors d'une prise en charge hospitalière, que ça soit avant une intervention, pendant une intervention ou après une intervention.
Oui, c'est un petit boîtier avec un casque qui est très joli, qui marche très bien, je crois, c'est ça.
Hein. Exactement. On est très différent de ce qui est aujourd'hui sur le marché. On a une paire de lunettes très légères, non invasives, permettant de ne pas effrayer les personnes. Ce qui permet le voyage et l'évasion vers justement des contrées lointaines, tout en restant sur un univers hostile, un petit peu. Donc on a cette dissociation qui est faite pour le bien-être de tous.
C'est formidable. En réalité, on pourrait presque dire que vous êtes des vendeurs de rêves.
Exactement.
C'est beau comme métier, ça. Alors, expliquez-nous un peu, parce que on a compris, il y a du matériel, il y a des lunettes, il y a bien évidemment, j'ai envie de dire, un rêve hein, qui va défiler sous nos yeux, mais comment ça se passe ? On a ce matériel-là quand on va se faire hospitaliser ou comment on trouve votre matériel ?
Je pense qu'il faut reprendre les choses un petit peu du début, surtout. C'est pourquoi il y a ce matériel ? Nous, on a vraiment travaillé sur les besoins d'un service et non arrivé avec une solution « adaptez-vous ». On a adapté notre solution aux pratiques quotidiennes du monde hospitalier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient en proie au stress avant une intervention, qu'elle soit sous anesthésie loco-régionale, qu'elle soit sous anesthésie générale. L'idée, c'était de leur proposer justement de pouvoir se détendre pour que tout ce processus hospitalier se déroule au mieux. Mais au mieux pour tout le monde. En premier lieu, pour le patient, pour une meilleure récupération.
Oui, parce qu'on se détend, donc on va dire qu'on a, vous proposez une solution qui est confortable, mais ça va au-delà de ça, parce que qui dit être détendu dit avoir besoin de moins de produits chimiques, de médicaments anesthésiques. Enfin bon, c'est quelque chose qui est très important pour la santé aussi.
Vous avez mis le doigt dessus.
Il me semble aussi.
Oui. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir détendre, ça soit sur le musculo-squelettique, qui est moins de rétention. S'il y a moins de rétention, le flux sanguin va aussi être moins sollicité. On aura effectivement en parallèle beaucoup moins d'anesthésie de confort, qui est le gros problème aujourd'hui, puisque vous avez une dose incompressible administrée, vous avez tant de temps en salle de réveil. Si on en administre moins, on a moins ce temps.
Alors comment ça se passe ? Parce que j'ai envie de dire que bon, on a tous eu une petite opération à droite ou à gauche. Enfin tous, pas tous, mais bon, quand on arrive, disons que quand on grandit, voilà, sans donner d'âge, mais quand on grandit, on a toujours une petite opération qui arrive. Ça se commande votre matériel ou c'est les hôpitaux qui le proposent ?
Alors nous, on propose notre matériel auprès des établissements de santé pour justement venir aider sur le parcours de soins du patient. Il y a différentes formules d'acquisition, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. Sujet, c'est comment peut-on proposer ce genre de matériel auprès d'un patient. Donc, c'est vraiment du travail de B2C.
Est-ce qu'on peut dire que votre système, en fin de compte, c'est un peu un système d'hypnose assistée ?
Alors, tout à fait, puisqu'on est dans la dissociation. L'idée, c'est de chausser les lunettes, de régler à la vue, et que chacun puisse profiter du voyage qu'il a envie.
Il y a un casque aussi, non ?
Il y a un casque audio.
Donc on met les lunettes, là c'est de la virtual reality, en fait, un petit peu, quelque part. On met les oreillettes, on change totalement d'univers, et donc on fait descendre le rythme cardiaque, les hormones, tout ça, pour se préparer à ce qui va arriver ensuite, c'est ça ?
C'est exactement cela. Vous avez très bien défini la solution, Stéphane. Et pour répondre à Patrice, cette commande passe vraiment par les hôpitaux.
Et entre nous, on est obligé de se faire opérer pour faire un petit rêve sympathique.
Ben normalement, non.
On ne peut pas trouver votre matériel ailleurs, quoi.
On y vient, effectivement.
Ah ben, ça serait chouette, hein, quand même.
D'autres sujets.
Oui, thérapie de stress avant de dormir, ce genre de choses.
Sur l'aide à l'endormissement.
Ben voilà, exactement.
On est en train de préparer ce développement commercial.
Super. Ben, j'attends ça avec hâte, parce que, bon, on revient quand même au sujet. Les hôpitaux, c'est toujours un endroit de stress, quoi qu'on puisse en dire, même si l'opération, on va dire, est légère, peu importe, on stresse toujours. De toute façon, moi, je stresse dès que je vois une blouse blanche, même avant même de la voir, d'ailleurs, je stresse. Donc ça, c'est quand même un confort, un service que vous proposez pour le client final à travers les hôpitaux, bien évidemment. Mais c'est fantastique. D'ailleurs, on parle de stress, mais on va donner la parole à notre deuxième invitée, hein, parce qu'elle a un métier qui peut faire stresser quelquefois. Bon, enfin, il n'y a pas que du stress, c'est le RH, les ressources humaines dans l'entreprise. Alors, Magali Delzangle, rebonjour.
Rebonjour.
Il me semble, je ne veux pas me tromper, mais vous êtes une grande RH, c'est ça ?
Alors, effectivement, j'ai fondé il y a 3 ans AspireWork, donc qui est un cabinet de conseil en ressources humaines. On fait du recrutement et du conseil, et également depuis début d'année de la formation spécifique en ressources humaines. Donc, en fait, bah oui, on peut dire qu'on est spécialisé en RH, ma collaboratrice et moi-même.
Pourquoi ça fait peur, le RH ?
Alors, pourquoi ça fait peur ? Parce que l'être humain évolue à grande vitesse, pas forcément dans le bon sens, et que, en fait, aujourd'hui, les dirigeants et managers d'entreprises ne savent plus trop comment en faire, en fait. Et ça demande une perpétuelle adaptation qu'ils ne sont pas forcément en capacité d'avoir, et une analyse aussi critique et objective qu'ils n'ont pas non plus ou qu'ils ne savent pas avoir. Donc nous, effectivement, on apporte ce petit plus, en fait, au niveau du cabinet.
D'accord. Donc, vous avez... quel est le point commun, en fin de compte, entre vous deux autour de cette table ?
Alors, le point commun...
Hormis que vous êtes deux chefs d'entreprise féminines...
Femme, oui. Le point commun, c'est qu'il y a 3 ans, donc moi, j'avais l'idée d'Aspirework, Christelle avait l'idée de Relax, tout était dans les tiroirs, et on s'est inscrites toutes les deux sur un programme qui s'appelle Entreprendre et Innover en Périgord, qui a été initié par le conseil départemental de la Dordogne, entre autres choses, avec également la French Tech et d'autres partenaires, Crédit Agricole, etc. Et on s'est inscrites toutes les deux pour participer à ce programme. On a été retenues avec 6 autres femmes chefs d'entreprise, ben, entrepreneurs.
C'était la promotion numéro 1, très féminine, si je me souviens bien.
Tout à fait. C'était le projet pilote, le crash test, comme nous on aime dire dans le métier. Et on s'est rencontrées comme ça, et au premier regard, au premier atelier, ça a matché, parce qu'on a beaucoup de valeurs en commun, voire toutes d'ailleurs. Et du coup, on s'est rencontrées voilà, sur ce programme-là, et puis on s'est plus quittées. Et puis c'est vrai que être femme chef d'entreprise, c'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas forcément des points communs, malheureusement, avec vous, messieurs. Donc de ce fait, voilà, ça nous permet d'avoir, je pense, un échange. Tu me rejoindras, Christelle, je pense, sur ce point, mais sur d'autres sujets. Et puis on partage voilà, des idées, des projets, des astuces, des trucs et astuces, en fait.
Donc, ça, c'est un beau message à faire passer, parce que souvent, quand on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer dans un projet entrepreneurial, on se dit, mais on doit être seul, comment je vais faire tout seul, En réalité, il y a des supports, il existe des supports. Et je pense que dans notre département, on n'est pas à plaindre.
Non.
Il y a un conseil général départemental qui est dynamique.
Tout à fait.
Puis il y a plein d'autres structures. Vous avez cité la French Tech, c'est très bien, il y en a d'autres aussi. Qu'est-ce qui vous ont apporté ces structures ?
Ben, ces structures, à moi, elles m'ont apporté du conseil, déjà. Il faut savoir que par le programme, effectivement, mais aussi, on va remonter un petit peu dans le temps, moi, je vais faire une petite dédicace à Aurélie, si elle m'écoute, qui fait partie de la pépinière capacité du Grand Périgueux, par laquelle nous, on est passé hein, pour monter à Spearwork, hein, et qui nous a aidé effectivement, à nous lancer avec une location de local, et dans lequel on est toujours, mais on n'est plus au Grand Périgueux. Et aussi à obtenir effectivement un prêt de démarrage, etc. etc. Mais en tout cas, pour en revenir à la question, je pense que ça m'a permis voilà, sortir de l'isolement, parce que on s'est rencontrées toutes. J'ai encore contact avec pratiquement toutes, de manière plus ou moins régulière. Et puis du coup, ça nous a ouvert la porte à plein aussi d'autres partenaires, d'autres collaborations, des réseaux professionnels, etc. Et c'est vrai que chef d'entreprise, peu importe, je pense, le statut juridique, quand on crée un projet, on ne peut pas le créer seul, il faut s'entourer correctement, et parce que sinon, c'est très compliqué psychologiquement parlant, quoi.
Oui, vous avez besoin de ressources, donc on a besoin de ressources pas que financières, on a besoin de ressources en conseil, on a besoin de ressources en appui, on a besoin de ressources en accompagnement.
Contrairement à Magali, moi, quand effectivement j'ai intégré Innover en Périgord, j'étais à un autre stade. Création déjà faite, commercialisation du produit faite, emprunt fait. Ce qui était pour moi important dans ce groupe, c'était de se retrouver autour d'entrepreneuses qui partageaient les mêmes problématiques de départ, ou pouvoir justement leur apporter mon expérience, de pouvoir, voilà, à un moment avoir un vrai dialogue, un vrai échange, un vrai partage. Et c'est pourquoi aujourd'hui avec Magali et bien d'autres, on se passe toujours un bâton de relais quand on a des informations, quand on a des invitations, pour éviter de rester isolé, effectivement, dans ce mouvement qui peut être quand même un engrenage assez lourd.
Alors, ce que vous venez de dire m'évoque plusieurs choses. La première, quand j'étais en Irlande, j'avais eu un client qui s'appelait Fonda, qui est une entreprise immobilière hollandaise, Genèse, qui est tenue par un couple de femmes. Donc on voit certains échos qu'il y a derrière. Et il m'avait semblé, moi, que dans beaucoup d'endroits du monde, écoutez, on est dirigeant, on est cadre, ou on est secrétaire, ou on est employé, ou on est stagiaire, non pas par rapport à son genre, mais par rapport à ses compétences. Il me semblait aussi que dans beaucoup d'endroits du monde, on se lance, on se met freelance, ou on crée une TPE-PME, non pas parce qu'on est issu d'un milieu social et non pas parce qu'on vient de quelque part, mais parce qu'on l'a en soi et qu'on le fait. Mais quand je vous écoute, vous et les autres, j'ai l'impression qu'en fait, la position initiale, ce qu'on est initialement, est encore source de frein. Est-ce que c'est difficile de se lancer en France, de créer quelque chose quand on est une femme ?
Alors, je vais prendre la parole, merci.
Oui, allez-y,
Christelle,
dites-nous.
Désigné d'office. Bah, je pense que oui, alors, il y a une question, il y a plein de réponses à donner à cette question, à savoir que déjà, on a un problème nous-mêmes, je pense, en tant que femme, de légitimité personnelle, de confiance en soi, que les hommes n'ont pas forcément, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui...
Donc c'est psychologique, ça.
Oui, tout à fait. C'est un peu ma formation.
C'est le poids de l'histoire, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Il y a un petit peu en retard
le poids de l'histoire, le poids de la société, le poids du fait qu'effectivement, il y a des programmes qui existent. Qui accompagne
la façon dont on vit le regard. Parce que vous savez, l'étiquette dans le dos qui sert à ralentir, elle est pour les autres, pas pour soi. Hein.
Tout à fait.
Exactement.
Tout à fait. Mais je pense qu'il y a de ça. Et puis, et malgré tout, il n'y a pas encore suffisamment de chefs d'entreprise féminines. Et on se sent parfois vachement isolé. Moi, je sais que j'ai participé à des réunions d'affaires et des colloques ou des conférences. Et on se retrouve, on est 20 femmes pour 200 chefs d'entreprise. Le reste, c'est des hommes. Enfin, c'est très violent quand même à vivre. Alors, généralement, on se retrouve entre nous C'est particulier.
C'est pas un petit peu la France qui étiquette et qui segmente à outrance sa population, en fait ?
Peut-être, c'est possible.
Peut-être, le problème, c'est que l'éducation qu'on a, je pense, et ce qu'on voit, réfrène énormément les envies potentielles de se mettre à son compte parfois. C'est tellement de la propagande quelque part sur des difficultés parce qu'on est une femme, parce que si, parce que là. Or, il me semble qu'on a toutes les capacités et les compétences de mener à bien nos affaires, puisque la preuve, on en est là après plus de, moi, pour ma part, plus de 4 ans. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas un long fleuve tranquille, mais je pense qu'il faut avoir confiance en soi, avoir des buts, atteindre ces buts-là et ne pas se laisser effectivement déborder par nos émotions.
Non, mais j'avais été surpris quand j'étais revenu en France après un certain temps à l'étranger par effectivement toutes ces luttes d'égalité homme-femme que l'on trouve dans la famille, j'ai une autre émission sur le sujet, mais aussi dans le monde professionnel, alors que c'est des questions qu'on se posait absolument pas, enfin que personnellement je ne voyais absolument pas se poser autour de moi et qui sont vraiment très présentes. Bon, autrement, vous, ça va, vous vivez bien, vous, c'est bon.
Mais on s'est habitué, je pense. On a...
C'est un rythme de vie différent,
voilà.
Je pense. Et je pense qu'on peut supporter une charge de travail hyper importante, bien plus que quand on était salarié, parce que le but n'est pas le même du tout. Donc c'est vrai qu'on peut faire, je pense, des très grosses semaines, 50-60 heures à peu près, sans grosses difficultés.
Ça, c'est l'indépendant en général.
Oui, mais
hein,
c'est
tout en assumant le quotidien de la maison,
ouais,
de la famille.
Tout à fait.
Oui,
mais c'est ce qui fait peur à beaucoup de femmes, chefs d'entreprise.
Je fais aussi ma vaisselle et ma lessive, mon ménage. Hein,
moi, je trouve ça formidable.
Aussi, hein,
mais beaucoup d'hommes encore ne le font pas et laissent cette charge.
Ah ben c'est ça ou c'est invivable. Hein, donc...
Exactement.
On est d'accord.
Est-ce qu'on peut dire que les hommes sont toujours aussi machos? Toujours aussi... Comment vous les voyez d'ailleurs, les hommes chefs d'entreprise? Parce que vous devez en croiser quelques-uns. J'imagine que vous avez des réseaux professionnels. Comment vous les voyez, les hommes chefs d'entreprise?
Ils ont tous
attention, messieurs,
une attitude différente. Moi, j'ai eu des confrontations avec des chefs d'entreprise masculins qui ne vous regardent pas dans les yeux. Et à côté de ça, j'ai eu également des chefs d'entreprise très ouverts à la discussion, à la communication.
Est-ce que c'est parce qu'ils sont masculins ou est-ce que c'est...
Non, je pense que ce n'est pas parce qu'ils sont masculins.
Ah, donc ce sont des gens qui ne vous regardaient pas dans les yeux.
Exactement. Ouais. Mais c'était souvent chez l'homme quand même.
Oui, ouais, ça, je suis d'accord.
Parce qu'il était peut-être majoritaire dans les gens que vous rencontriez.
Exactement.
Oui.
Ah, vous voyez, il faut dégenrer un peu.
Non, mais on n'a pas d'étiquette portée sur du machisme ou pas. Voilà,
nous sommes tellement vulnérables, vous savez.
Non, et puis c'est propre à chacun en plus.
Exactement,
enfin,
c'est un ressenti. Donc chaque ressenti est propre à chacun et on va avoir aussi une attitude.
De manière globale, je pense quand même, on est. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que tu partages cet avis. On est bien accueillis quand même, hein, par les chefs d'entreprise hommes. Alors, on est des femmes, donc forcément, on est confrontés. Parfois un peu de sexisme. Alors surtout au début, je pense. Enfin moi, pour ma part, au début, parce que On ne sait pas où on met les pieds, on n'est pas encore vraiment chef d'entreprise.
Oui, mais si vous montrez un peu les dents, ça va être
rapidement. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entendez une fois ou deux, je me rappelle d'anecdotes, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez des enfants, vous n'êtes pas à la maison. Pardon, excusez-moi. Et
mais
vous,
ça, vous
qui êtes à la maison,
si...
votre femme? Ah, très bien. Écoutez, moi, c'est moi la chef d'entreprise dans la famille, oui. Donc c'est moi qui suis là.
Non, mais je vais vous rassurer, c'est un processus normal. Si moi, j'y vais en tant qu'homme, vous montrez un peu les biscottos, autrement, ils me marchent dessus. Donc qu'on soit homme ou femme, c'est pareil.
Oui, tout à fait. Mais je pense que les femmes ont un peu plus de mal, peut-être, à prendre cette casquette-là, en fait. Ça prend plus de temps que malgré. Enfin, je pense qu'effectivement, on en revient tout à l'heure, c'est l'éducation qu'on nous donne aussi, la place qu'on nous donne dans la société, où c'est pas notre rôle, ou en tout cas. De justement avoir cette posture de entre guillemets hein, de dominant quoi. Donc on en apprend à s'endurcir et à sortir les crocs et les biceps comme vous dites.
Bien sûr.
On relève les manches et on y va.
C'est ça.
Alors si on revient sur vos activités à chacune, où est-ce que vous en êtes, quels sont vos projets professionnels, Christelle?
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Vendeuse de rêves.
Vendeuse
J'espère
de rêves.
Que vous avez plein de projets encore.
Très beau matériel.
On a de très beaux projets encore. On est en train de mettre en place des ateliers bien-être pour les entreprises qui souhaitent apporter du bien-être à leurs salariés. Il est important, je pense, de considérer les problématiques sociétales qu'on rencontre aujourd'hui. De donner envie à un salarié de s'investir pour vous, et ça en passe par la considération, par son bien-être physique et mental. C'est pourquoi ce projet-là, aujourd'hui, a démarré depuis le mois de juin. On a eu la chance de pouvoir croiser la société Mademoiselle Dessert à Brantôme. Nous avons pu intervenir sur une journée sécurité santé auprès du site de Tenon, qui s'est extrêmement bien déroulé, et il y a très peu de temps, on a fait deux journées d'accompagnement pour leurs salariés, qui sont sur de la production aussi, où c'est des métiers difficiles, beaucoup de problèmes musculo-squelettiques, beaucoup de problèmes de stress, beaucoup de problèmes à l'endormissement. Et on a eu un accueil très favorable et un questionnaire qui a été plus que probant sur la diminution du stress, sur... la détente musculaire engendrée.
Ça c'est super. Et alors là, vraiment, on vous souhaite un futur le plus beau possible, parce que il y a encore des métiers stressants, et on voit pas trop d'ailleurs comment on peut déstresser ces métiers-là. Je pense à par exemple un gros employeur sur la Dordogne qui est la Sobéval, qui est un gros abattoir. Bon, c'est sûr et certain que quand on tue des bêtes du matin au soir, on peut pas dire que c'est un métier sympatoche. Mais pourtant, il faut bien qu'il y en ait qui s'en chargent.
Tout à fait.
La machine ne peut pas tout faire.
Le végétarien refuse de répondre.
Alors, le végétarien se tait. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres métiers qui sont très stressants et qui ne sont pas agréables. Je pense, ne serait-ce qu'aux policiers qui, du matin au soir, voient des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais sont franchement pas belles à voir. Donc, des métiers stressants, il y en a plein.
Il y en a partout.
Et la question, c'est quand on ne peut pas, j'ai envie de dire, diminuer le stress parce que on ne sait pas, on ne peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, c'est peut-être une très bonne solution, ça, de faire un petit quart d'heure.
Oui, parce que les sociétés ont un budget psychologue, parfois, pour améliorer le bien-être des employés. Ouais.
Moi, j'ai toujours été admiratif sur certains autres pays qui intégraient dans le temps de travail, le temps de repos, voire un temps de sieste, enfin de sieste, je devrais sieste, hein, pas 3 heures, hein, mais de vraie sieste, le quart d'heure de sieste. Et toutes ces entreprises, la plupart du temps, sont très, très productives. Donc, votre solution relax peut tout à fait, en effet, je pense, avoir un bel avenir dans ce domaine.
C'est en tout cas la croyance que nous avons, et c'est pourquoi tous les matins, c'est notre moteur. Et on a également le soutien de la santé prévention du travail de Dordogne Corrèze. Monsieur Eck, son directeur, est très novateur. Il cherche effectivement des solutions pour venir en aide aux entreprises, aux salariés, que des effets bénéfiques.
Alors, Magali Deslangues, ressources humaines, domaine méconnu des gens, qui pourtant est extrêmement crucial aujourd'hui, qui est un domaine... vraiment extrêmement intéressant parce qu'il, je veux dire, c'est ne serait-ce qu'humainement satisfaisant, et aussi parce qu'il recoupe un nombre d'areas, d'environnements très... Comment est-ce qu'on devient RH?
Comment on devient RH? Alors, de base, pour être très honnête, moi, j'ai une formation de psycho, donc qui n'a rien à voir, mais
donc,
qui a beaucoup...
Fac de psycho, jusqu'à
exactement.
Quel niveau jusqu'à...
Alors, moi, j'ai pas obtenu mon master pour des raisons personnelles.
Le
mais
master 1, vous l'avez eu?
Voilà, jusqu'à ce niveau-là.
Bon, c'est bien, c'est un plus 4 déjà.
C'est
donc
déjà pas mal.
Des bases.
Et après, je suis venue en Dordogne, puisque je n'ai pas originaire d'ici.
D'accord.
Et la vie a fait que je suis rentrée dans le monde de l'insertion, l'emploi à l'époque.
D'accord.
Pendant 2 ans. Ensuite, j'ai atterri dans un cabinet effectivement de conseil pendant 8 ans que j'ai monté à Périgueux pour cette enseigne
qui s'appelait
Axis, qui s'appelle toujours Axis France. Et ensuite voilà, j'ai eu l'occasion de travailler en organisme de formation, enfin en tout cas dans le grand monde qu'on appelle l'emploi, dans lequel se font les ressources humaines.
Alors pourquoi est-ce que les RH, les ressources humaines, pourquoi est-ce qu'il faut quelqu'un qui gère cette chose-là? Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui?
Alors c'est important parce que de toute façon, sans ces collaborateurs, moi j'aime les appeler collaborateurs plutôt que salariés, on n'est rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un qui travaille avec vous, et je dis bien avec vous et non pas pour vous, ça ne fonctionne pas. Qu'en plus, le métier effectivement d'RH est un métier à part entière puisque c'est un travail à temps plein. C'est pas le petit café du matin où je me dis j'ai discuté 3 minutes avec mes salariés, c'est bon, mon job il est fait, je suis tranquille pour la semaine. On a encore des dirigeants qui pensent ce genre de choses. C'est vraiment un travail où on accompagne ses collaborateurs quand on les intègre, on prend le temps, on apprend à les fidéliser, à les récompenser, comme disait Christelle, pourquoi pas effectivement avec une solution bien-être, avec, comme tu le disais, Patrice, des siestes, des choses qui ne coûtent rien finalement, entre guillemets, à l'entreprise, mais qui finalement permettent aux sociétés de conserver leur personnel et d'en attirer de nouveaux, puisqu'aujourd'hui...
Donc vous proposez vos services
oui,
en recrutement et
tout
en accompagnement de structure.
Tout à fait,
d'accord.
Exactement.
Et on vous trouve comment?
Alors, on me trouve, écoutez, sur Internet, on a un site web aspirework.fr, on est présent sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, et également, de toute façon, à Créa Vallée, on a nos bureaux, en fait, voilà.
Christelle, où est-ce qu'on vous trouve si on a envie de commander plein de rêves?
Vous tapez relaxdiffuseurdebonnehumeur.com et vous tomberez sur notre site internet. On est à Villamblard, on est également comme Magali sur Link, Instagram, Tweet. C'est pas très difficile. Relax diffuseur de bonne humeur et vous allez nous retrouver.
.com, relaxdiffuseurdebonnehumeur.com. Ben voilà, c'était Patrice et Stéphane sur RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker le podcast sur YouTube, si vous écoutez sur la plateforme. La semaine prochaine, nous recevrons Patrice. Tu te souviens qui c'est?
J'avoue que j'ai un blanc.
Ah, je marquerai la prochaine fois, mais je crois que c'est un regroupement de centres d'affaires et de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs.
Bon. Ça sera la surprise.
Tout à fait. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Mesdames,
merci
beaucoup. D'être
merci
venues.
Beaucoup.
Merci encore. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe, des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.